qui vous est présenté par Thomas Cluzel. Pardon pour cette minute de retard. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. 15 milliards d'euros, c'est le montant du plan d'aide dévoilé ce matin par le gouvernement pour soutenir l'industrie aéronautique française frappée par la crise et dont l'évolution est jugée cruciale dans l'effort de réduction des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. L'économie française va mettre du temps à se remettre de la pandémie, prévient ce matin la Banque de France qui anticipe une chute record d'environ 10% du PIB cette année. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction d'ici quelques minutes, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. Au lendemain des premières annonces du gouvernement pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre, le Premier ministre Édouard Philippe était ce matin à Évry pour y rencontrer les policiers. Enfin, sur le front de la pandémie, si l'Organisation mondiale de la santé estime que la situation s'améliore en Europe, elle pointe en revanche une aggravation de la contagion dans le monde et tout particulièrement sur le continent américain, de même qu'en Asie du Sud. Voilà plusieurs semaines qu'elle attendait un nouveau plan de vol dans l'espoir de pouvoir enfin redécoller malgré la crise. Et depuis ce matin, c'est donc chose faite. Après le tourisme, après l'automobile, la filière aéronautique s'est vue à son tour octroyer son plan de soutien. Ou quant à la chute de domino des secteurs de l'économie frappés de plein fouet par la crise du coronavirus, vient se substituer une autre cascade, celle des chiffres et en l'occurrence des milliards débloqués par l'État pour préserver des secteurs clés pourvoyeurs d'emplois. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour. Bonjour Thomas Cluzel.
Alors précisons que le secteur aérien, comme le reste de l'économie d'ailleurs, avait déjà largement eu recours aux dispositifs de chômage partiel, mais aussi des aides de l'État sous forme de prêts directs ou de prêts bancaires garantis par la puissance publique. Cette fois-ci, le plan dévoilé ce matin d'un montant donc de 15 milliards d'euros comprendra un fonds de recapitalisation pour les entreprises en difficulté, mais aussi un budget à la recherche et au développement et qui devra permettre non seulement de moderniser l'outil industriel, mais également, Hakim, d'innover avec des avions moins polluants.
Et oui, il y a donc urgence, car le secteur aéronautique représente aujourd'hui en France 300 000 emplois, dont 100 000 qui seraient menacés dans les 6 prochains mois, a précisé Bruno Le Maire. Alors attention, sur ce plan de 15 milliards, il faut préciser que la moitié comprend déjà le plan d'aide octroyé à Air France, plan de 7 milliards d'euros. Concrètement, le gouvernement entend donc donner une priorité aux PME et aux ETI, ces petites entreprises, qui sont plus de 400 en France à travailler pour le secteur aéronautique et qui connaissent de gros problèmes de trésorerie. Concrètement, cela va comprendre une aide d'un milliard, dont 500 millions d'euros disponibles dès cet été. Le gouvernement qui entend aussi moderniser les entreprises du secteur aéronautique afin d'être plus compétitive avec la robotisation, le numérique, notamment face aux entreprises chinoises et indiennes qui produisent des pièces à bas coût. Là, 300 millions d'euros seront donc octroyés. Mais le gouvernement, comme pour Air France, veut aussi des gages en ce qui concerne l'environnement. C'est pourquoi il va mettre en place une aide d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans en demandant aux constructeurs de produire des avions hybrides avec un moteur thermique et électrique dès 2027, projet sur lequel travaille déjà le motoriste Safran, mais aussi un avion 100% vert dès 2035 alors que l'objectif initial était de 2050. Faut-il savoir si les constructeurs seront au rendez-vous. Le gouvernement qui va également soutenir la filière via le prolongement du chômage partiel pour les entreprises du secteur au-delà de cet été et qui va aussi autorisé via la COFAS, qui est une banque publique, eh bien, le report des crédits en ce qui concerne les compagnies étrangères qui nous achèteraient des avions, notamment des grosses compagnies qui achètent notamment chez Airbus pour soutenir le secteur. Il faut savoir que la reprise n'est pas attendue avant 3 à 5 ans en ce qui concerne le secteur aéronautique, Thomas.
Merci Hakim Kasmi. Alors, si jusqu'à présent le gouvernement aura largement soutenu les entreprises pendant cette crise sanitaire en introduisant notamment un régime exceptionnel de chômage partiel qui aura profité à quelques 12 millions d'employés, le gouvernement n'entend pas prolonger éternellement ce dispositif. Celui-ci a d'ailleurs déjà évolué depuis le 1er juin et signe là encore que l'exécutif entend bien en modifier encore les contours. Il lui a substitué un nouvel acronyme, LARM. Comprenez, l'activité réduite pour le maintien en emploi. Et l'objectif pour le gouvernement pourrait se résumer ainsi, se désengager progressivement tout en continuant d'aider les entreprises, mais avec quelle prise en charge et pendant combien de temps? La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a prévu de recevoir cet après-midi les partenaires sociaux afin de préciser les choses, en particulier sur une possible réduction du temps de travail compensé en partie par l'État. Alors si ce dispositif massif de chômage partiel mis en place par le gouvernement devrait quelque peu ralentir l'impact de la crise sur l'emploi et le pouvoir d'achat, le taux de chômage devrait toutefois atteindre plus de 10% à la fin de l'année. C'est du moins ce que projette La Banque de France, ce matin, qui dit anticiper également une chute record d'environ 10% du PIB en 2020, soit un point de moins que celle anticipée par le gouvernement dans le troisième projet de loi de finances rectificative qu'il présentera demain en Conseil des ministres, où quand malgré le redémarrage progressif de l'économie, entamé avec la levée du déconfinement, il semble d'ores et déjà acquis que la France ne pourra pas éviter une récession. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Les projections de la Banque de France ne constituent pas franchement en réalité une surprise néanmoins. Et pour bien comprendre donc la situation actuelle, sur quelles hypothèses au fond sont fondées toutes ces prévisions, Marie ?
L'hypothèse la plus importante qui sous-tend ces prévisions, c'est une hypothèse non pas économique mais sanitaire, et c'est celle d'un virus qui continue de circuler et d'une France qui arrive cependant à s'adapter à la circulation de ce virus. En d'autres termes, il n'y aurait donc pas de nouveau confinement forcé et l'économie française pourrait reprendre un rythme de croissance au troisième et quatrième trimestre. La sortie graduelle de la crise, c'est donc le scénario central des prévisions de la Banque de France, y compris pour l'après 2020, mais la Banque de France, même si elle projette 7% de croissance en 2021 et 4% en 2022, précise bien dans son communiqué de presse que les projections pour 2021 et 2022 sont entourées d'encore plus d'incertitudes que celles pour le second semestre 2020. Il y a l'incertitude sur l'évolution du Covid, donc, même si les signes sont encourageants, il y a aussi l'incertitude sur la consommation des ménages. Or, c'est une des composantes clés du produit intérieur brut. Notons que pour le second trimestre, la Banque de France est estime donc à 15% la chute du PIB, alors que l'INSEE table sur une contraction de 20%. Ce qui explique cet écart, c'est d'abord la très grande ampleur des mouvements mesurés. 15 ou 20% de récession sur 3 mois, c'est inédit, donc les écarts d'estimation le sont aussi. Ensuite, la Banque de France, pour trouver ce chiffre, part d'une enquête menée sur 8500 entreprises qui a été réalisée entre le 27 mai et le 4 juin, alors que les données de l'INSEE, elles, ont été collectés auprès des chefs d'entreprise la première quinzaine de mai. Début juin, donc, ces chefs d'entreprise étaient plus optimistes que début mai, et cela peut expliquer aussi l'écart de 5 points. Cela dit, la Banque de France et l'INSEE sont d'accord sur un point. La période est si singulière qu'il est très compliqué de faire des prévisions. L'INSEE se demande d'ailleurs si elle publiera les siennes pour l'année 2020, comme prévu la semaine prochaine.
Voilà, et pour continuer donc d'évoquer toutes ces questions, invité de la rédaction aujourd'hui, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et toujours pour vous interroger, Marie Viennot. Une première question toutefois, monsieur Plane. On vient de le voir, la Banque de France vient de révéler ce matin ses prévisions pour l'année 2020. L'INSEE l'avait déjà fait. Vous-même, à l'OFCE, vous allez donner les vôtres bientôt, je crois. Et à chaque fois, force est de constater des écarts d'anticipation. Est-ce que cela tient aux méthodes de calcul ? Sur quelles hypothèses vous basez-vous ?
Justement, on est dans une situation inédite, donc on utilise des moyens et des outils inédits, parce qu'on a besoin d'informations en temps réel. Donc c'est vrai que ça va passer par les données de transactions en carte bleue, bien sûr, les différentes enquêtes. On a aussi des indicateurs de mobilité avec Google ou Apple. Donc on va mixer l'ensemble de cette information de façon à avoir déjà une idée de la situation qu'on vit, c'est-à-dire c'est même pas de la prévision, hein, c'est-à-dire être capable de faire un point, un bilan sur ces 8 semaines de confinement et le début du déconfinement, et voir comment les différents acteurs, comment les entreprises s'adaptent, quelles ont été les pertes d'activité, dans quel secteur, comment les ménages finalement consomment, l'épargne qui a été accumulée. Donc on voit qu'on est dans une situation vraiment extrêmement différente de d'habitude, et donc on doit déployer énormément d'outils différents. Et à ça j'ajouterais, c'est qu'on est dans une crise aussi avec des effets sectoriels très différents. Donc il faut regarder tout ça de très près, et c'est vrai que tout ce qui va être annoncé par la suite, hein, par les pouvoirs publics, dépend en partie du bilan qui sera fait de ces différents mois depuis le début de la crise.
Question de Marie Viennot.
Oui, alors on le disait, des écarts de 5 points, là, comme par exemple entre la prévision de l'INSEE et de la Banque de France. D'ailleurs, c'est même pour le deuxième trimestre 2020, donc c'est celui dans lequel on est déjà. Vous, en tant que prévisionniste, c'est du jamais vu pour vous qu'on ait de tels écarts, hein ?
Oui, oui, c'est du jamais vu. Tous ces chiffres sont du jamais vu. De toute façon, depuis qu'on a des données statistiques, en gros, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc on est dans quelque chose qui est extrêmement extrêmement violent d'un point de vue économique, très très rapide, et donc les fourchettes aujourd'hui sont importantes. On le voit avec la prévision aujourd'hui, parce qu'on parle bien de prévision, vous l'avez rappelé, on est dans le deuxième trimestre, fin juin on sera même à la fin du deuxième trimestre, et pourtant on a des fourchettes qui sont extrêmement élevées, entre moins 15 et moins 20 pour un seul trimestre. Je rappelle que d'habitude, nous prévisionnistes, on se bat à quelques dixièmes de points. Donc là, on est sur des fourchettes qui sont en plusieurs points. Donc ça montre l'incertitude radicale dans laquelle on se trouve. Et aller là, aller même au-delà du deuxième trimestre nécessite de faire des hypothèses très fortes. Et donc c'est pour ça que la Banque de France nous indique des fourchettes qui sont même du jamais vu sur une année. C'est-à-dire que dans le scénario le plus optimiste, on serait à moins 7. Et le scénario le plus noir, on serait à moins 16. Donc on a quasiment 10 points d'écart. C'est colossal.
Comment peuvent faire les décideurs publics avec tout ça? Parce qu'on demain, il y a un projet de loi de finances rectificative qui va être présenté. La prévision du gouvernement, elle, c'est moins 11% pour 2020. Mais quand on a de tels écarts, en fait, quels effets ça peut avoir sur les choix de politique publique?
Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment voir la prévision comme un... Ça donne des ordres de grandeur, un cadre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein. Ça permet de comprendre ce qui se passe pour les décideurs publics. Donc, je vous l'annonce. Là, maintenant, c'est qu'on va avoir des prévisions toute l'année. Comme jamais on en a eu, avec des révisions qui seront assez fortes au gré des informations qui vont remonter, qui seront un peu plus précises, on aura des données un peu plus sûres. Pour les pouvoirs publics, ce qui est important, c'est de faire un état des lieux déjà de la situation, de savoir où est-ce que sont finalement les grandes difficultés, où sont les risques de faillite, qu'est-ce qui peut se passer sur le chômage et les plans de licenciement, où est-ce qu'on doit mettre l'accent justement sur les questions d'inégalité de pauvreté, parce qu'on voit qu'on a des effets sur la précarité, sur les jeunes, et donc c'est avoir ce ciblage-là. Et puis, ce qu'on apprend aussi, enfin avec les différentes prévisions dont on a aussi fait partie, c'est cette question de l'épargne forcée qui s'accumule quand même, la situation qui est quand même assez incroyable. C'est que les entreprises n'ont jamais été autant en difficulté et les ménages n'ont jamais accumulé autant d'épargne. Donc à un moment, il va falloir réconcilier les deux parce que finalement, le dégonflement de cette épargne va être un enjeu majeur pour les mois à venir.
Alors rapidement, est-ce que si on se projette justement dans ce monde d'après que les prévisionnistes doivent essayer d'un peu deviser, on a beaucoup de questions aussi par rapport à ce qui rentre dans le calcul du chiffre du PIB sur la conjoncture internationale, sur aussi la façon dont on va taxer potentiellement à l'avenir. Comment tout ça, vous essayez de l'intégrer ?
Oui, justement, c'est quel est le scénario en fait à long terme ? C'est-à-dire quelles sont les conséquences durables et structurelles de cette crise. Ce qu'on sait, c'est que certains secteurs mettront des années, voire ne retrouveront jamais le même niveau d'activité. Est-ce que les mouvements de personnes à l'échelle internationale, est-ce que vont retrouver ce qu'on a connu par le passé? Donc il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Il y a la question très forte aussi sur l'activité industrielle, les relocalisations potentielles dont on parle, la question de la transition énergétique. Est-ce qu'il faudra mettre aussi une taxe carbone aux frontières, la question européenne et d'un plan de relance et plus de solidarité avec des transferts entre le Nord et le Sud. Donc là, on est au début de la crise. Cette crise, en fait, est une crise à tiroir. On aura certainement énormément de répercussions dans les mois et les années à venir.
Merci Mathieu Plane, économiste, je le rappelle, à l'OFCE d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Marie Viennot. Alors que le Ségur de la santé se poursuit sans qu'aucune décision importante n'ait été prise pour le moment, le personnel soignant des hôpitaux entend bien maintenir la pression et c'est ainsi qu'à une semaine tout juste de la grande journée de manifestation prévue dans toute la France, ils en appellent à nouveau aujourd'hui à leur troisième mardi de la colère pour que l'hôpital public d'après ne ressemble pas à celui d'avant. Eux avaient rêvé à un nouveau monde baptisé La République en marche, censé révolutionner l'ancien, loin des appareils et plus encore éloigné de la traditionnelle bipolarisation de la vie politique. Or, à 2 ans de la fin de son mandat, non seulement Emmanuel Macron voit désormais ses partisans choisir massivement l'alliance avec la droite aux élections municipales du 28 juin, mais le mois dernier déjà la constitution de 2 nouveaux groupes à l'Assemblée avec des ex-LREM avait mis le feu aux poudres au sein de sa majorité présidentielle. Enfin, depuis ce matin, se tient cette fois-ci une réunion du groupe majoritaire compliquée par la révélation d'une note parue vendredi dernier dans l'hebdomadaire Marianne et dans laquelle le chef de file des députés LREM, Gilles Legendre, prend position pour un changement de Premier ministre en cas de remaniement et propose lui-même un nouveau casting gouvernemental. Depuis, l'intéressé n'a pas démenti l'existence de cette note adressée au président mais tenu à souligner que sa divulgation comportait selon lui beaucoup de contre-vérités. Tandis que le monde entier, en particulier la France, gronde depuis la mort de George Floyd aux États-Unis. Et quand bien même dresser des parallèles peut sembler parfois hasardeux, il ressort en revanche que des perpendiculaires se recoupent bel et bien, et en l'occurrence celles des accusations de racisme et de violence visant certains policiers. Hier, après la publication d'un rapport de l'IGPN faisant état d'un nombre inédit d'enquêtes disciplinaires, dont plus de la moitié vise des accusations de violence volontaire des forces de l'ordre, voilà que le site d'information Street Press rendait lui public des captures d'écran d'un groupe privé réunissant des milliers de personnes, pour beaucoup membres des forces de l'ordre, et dans lesquels apparaîtraient des messages racistes. Or, quelques jours plus tôt à peine, Street Press avait déjà dévoilé l'existence d'un autre groupe dans lequel des milliers de membres de policiers échangeaient des messages, là encore, haineux. Alors, dès hier, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement d'accélérer ses propositions pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, intervenait en personne pour prôner une tolérance zéro du racisme dans les effectifs de la police. Enfin, ce matin, c'était au tour d'Édouard Philippe. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Le Premier ministre s'est rendu à Évry ce matin pour y rencontrer des policiers et faire le point, Pierre, sur les dispositifs de prévention et de renforcement du lien entre la police et la population.
Et pour l'exécutif, la difficulté du moment est de ne pas accumuler les colères, colère de la jeunesse dans la rue, colère des policiers qui se sentent lâchés par leur ministre après les déclarations de Christophe Castaner hier après-midi sur les méthodes d'interpellation, la suspicion avérée de racisme dans la police. Eh bien, les syndicats dénoncent un discours déconnecté du terrain et revendiquent la présomption d'innocence. Après avoir rencontré des élus de l'Essonne ce matin, Édouard Philippe s'est entretenu pendant près d'une heure avec des policiers loin des caméras, première étape de cette opération de communication, avant d'aller ensuite à la rencontre d'une association qui se mobilise auprès des jeunes dans les quartiers difficiles. Opération de déminage pour établir la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. Les hommes naissent libres et égaux en droit, martèle à l'instant le Premier ministre. La République reconnaît et protège tous ses enfants. Le racisme est une force de maladie de l'âme, une forme de faiblesse qu'il faut dénoncer, dit le chef du gouvernement venu défendre les principes de la République et assurer le soutien de l'exécutif aux forces de l'ordre qui exercent, dit-il, une mission redoutablement difficile. On le voit, le gouvernement est obligé de s'adapter, de réagir au jour le jour à cette onde de choc venue des États-Unis, qui trouve un prolongement en France. Et ces questions des violences policières et du racisme ravivent également le clivage droite-gauche, ce débat politique qui s'engage et la pression de la rue pour être obligé le chef de l'État à sortir de son silence dans cette première crise de l'après-Covid-19.
Merci Pierre Neveu. Alors on le voit depuis hier, l'Élysée enjoint activement tous les membres du gouvernement de s'emparer des différents volets de ce sujet, qu'il s'agisse de la déontologie policière ou du racisme. Et puis parallèlement, le chef de l'État a aussi demandé à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, de se pencher sur le dossier de la mort d'Adama Traoré, ce jeune noir de 24 ans décédé en 2016 lors d'une arrestation. Alors rappelons qu'en début d'année, le président était lui-même déjà intervenu dans le débat, estimant notamment que le besoin de procès était là. De son côté, la ministre de la Justice se défend aujourd'hui de vouloir intervenir dans une affaire qu'elle qualifie individuelle. Pour autant, elle a tout de même invité la famille du défunt à la rencontrer, une invitation, Florence Turme, qui n'a pas reçu en l'occurrence un accueil, disons, très favorable.
L'invitation de la garde des Sceaux à la famille d'Adama Traoré a visiblement produit le contraire de l'effet escompté. Les proches du jeune homme, décédé lors de son interpellation en 2016, lui ont opposé un refus cinglant, aussitôt relayé sur les réseaux sociaux. La famille rappelle qu'elle attend des avancées judiciaires et non des invitations à la discussion qui n'auraient aucune finalité procédurale. Son avocat, Yacine Bouzrou, enchérit : « Je vous demande de respecter la séparation des pouvoirs. La loi interdit à la garde des Sceaux d'intervenir dans des affaires individuelles. » Les syndicats de magistrats ont très vite réagi à leur tour, au nom, eux aussi, de la séparation des pouvoirs. L'Union syndicale des magistrats, majoritaire dans la profession, juge la demande du président de la République inacceptable et déplore qu'il oublie une fois de plus ce principe fondateur, comme il avait déjà pu le faire dans l'affaire Halimi, souligne l'USM, en référence au meurtre de Sarah Halimi par un homme jugé pénalement irresponsable. Emmanuel Macron était intervenu dans le débat depuis Jérusalem, estimant notamment que le besoin de procès était bien là. Témoin de la tension qui entoure ce dossier, dont tous les éléments sont désormais dévoilés sur la place publique, les magistrats instructeurs ont communiqué à leur tour par la voix du parquet. Parquet de Paris, fait exceptionnel pour indiquer que les auditions prévues en juillet de deux témoins de l'affaire étaient programmées bien avant la manifestation de vendredi, contrairement à ce qu'avait laissé entendre maître Yacine Bouzrou.
C'est un premier pas dans la lutte contre les violences policières et les discriminations raciales aux États-Unis. Hier, en réponse au mouvement de protestation suscité par la mort de George Floyd, des élus démocrates au Congrès ont présenté une proposition de loi visant à réformer la police, notamment en supprimant l'immunité qualifiée qui protège aujourd'hui les agents contre des poursuites pour usage de la force. Et puis, la ville de Houston se prépare à accueillir aujourd'hui les funérailles de George Floyd au lendemain de la comparution pour la première fois devant la justice de son meurtrier Derek Chauvin, devenu à travers le monde le visage des brutalités policières. Toujours aux États-Unis, la réserve fédérale américaine se réunit aujourd'hui et demain pour la première fois depuis la levée des mesures de confinement et devrait de nouveau insister sur les risques de la pandémie pour l'économie malgré la baisse surprise du chômage le mois dernier, retombant à 13% quand les analystes le voyaient grimper à près de 20%. Sur le front de la pandémie, à présent, avec 30 000 nouveaux cas détectés par jour en avril et plus de 20 000 depuis début mai, voilà deux mois maintenant que les États-Unis semblent bloqués sur un plateau, signe selon les experts que l'épidémie américaine en cacherait plusieurs, gérées de façon diverse selon les régions et les affinités politiques. Pendant ce temps, au Brésil, le gouvernement continue de diffuser ses données sur les morts et les cas de contamination dans la confusion la plus totale, suscitant une avalanche de critiques sur une possible manipulation de statistiques. Et puis non loin de là, au Chili, pourtant considéré dans les premiers temps comme un modèle dans la gestion de la pandémie sur le continent, là-bas, les chiffres ont presque décuplé en un mois. D'où l'alarme lancée hier par l'Organisation mondiale de la santé contre une aggravation de la situation mondiale face au coronavirus, notamment en Amérique latine, donc, où la progression de la pandémie reste inquiétante, mais pas seulement. Valérie Crova, la situation en Asie du Sud serait tout aussi pessimiste.
En mars dernier, au plus fort de l'épidémie, la directrice régionale de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est lançait un avertissement. Il existe des groupes de transmission du virus importants qui doivent nous contraindre à des efforts plus agressifs pour empêcher la propagation du Covid-19. Trois mois plus tard, sur les 10 pays de la région scrutés par l'Organisation mondiale de la santé et qui abritent plus du quart de la population mondiale, 9 d'entre eux continuent de voir chaque jour de nouveaux cas de coronavirus. L'Inde constitue aujourd'hui le principal foyer avec 256 000 cas confirmés et près de 10 000 nouveaux cas recensés, suivi du Bangladesh avec 65 000 cas confirmés et plus de 2 700 nouveaux cas, et de l'Indonésie où plus de 31 000 cas ont été enregistrés selon les décomptes de l'OMS. Si le sud du continent asiatique semble avoir été un temps épargné, plusieurs pays craignaient un pic épidémique provoqué par des personnes asymptomatiques qui seraient passées sous les radars. Conséquence, le virus se propagerait plus vite, surtout dans les zones où la densité de la population est importante. Autre hypothèse avancée pour expliquer ces mauvais chiffres, les mesures barrières qui seraient moins respectées avec le temps.
C'était il y a tout juste un an, les premières manifestations pro-démocratie débutaient à Hong Kong, donnant le coup d'envoi de 7 mois consécutifs de manifestations monstres et parfois violentes. Alors depuis, avec les arrestations massives, mais aussi l'interdiction de se rassembler liée au coronavirus, sans oublier l'imminence d'une loi sur la sécurité nationale, eh bien la contestation peine à repartir. Pour autant, la dirigeante de l'exécutif hongkongais reste prudente ce matin, en ce jour anniversaire donc de la contestation anti-gouvernementale. Carrie Lam a déclaré que la ville semi-autonome ne tolérerait plus de chaos. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par de belles éclaircies de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France, en passant par les pays de la Loire et le Poitou, idem sur la basse vallée du Rhône. Partout ailleurs, en revanche, le ciel restera très nuageux avec des pluies, parfois même des orages. Quant aux températures, elles afficheront entre 15 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.